Airbag Takata. De nombreux véhicules de différentes marques, et peut-être le vôtre, circulent aujourd'hui équipés d'airbag Takata défectueux. En cas d'accident, ils peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le danger est réel. Vérifiez immédiatement si votre véhicule est concerné sur airbagtakata.fr. Le remplacement est gratuit. Votre sécurité n'attend pas.
Le répit me faisant un abri et ma terreur, mais c'était là la chance qui m'emmenait loin de vous.
Stéphanie Hackett revient avec Mes Sœurs, un nouveau disque qui développe des thèmes chers à l'artiste jovinienne, le désir, la fuite, l'être au monde.
Là, dans le creux d'un rêve, dans ce livre d'images, rien jamais ne s'achève. Continue le voyage.
Stéphanie Hackett, Amour charnel, un coup de cœur ici au Serre.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Ici, les essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Mélissa Laveau.
Une artiste absolument formidable qui a grandi au Canada. Elle est d'origine haïtienne. Elle est désormais installée en France depuis quelques années. Vénard que nous sommes d'avoir avec nous Mélissa Laveau. Compositrice, guitariste et chanteuse Mélissa Laveau est ce soir dans Décibel pour célébrer la sortie de son ébouriffant 5e album. Vous allez adorer At My Softest, I Am The Most Dangerous, un album dans lequel elle revient sur tous les moments de sa vie, et il y en a de nombreux, où elle a échappé à la mort. C'est une artiste que j'adore, mais je vais carrément vous dire que c'est ma star, ma merveille. Elle est dans le studio, Mélissa Laveau, bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Bienvenue dans Décibel. Je l'ai dit tout à l'heure pour te présenter très très rapidement. Tu as grandi au Canada, tu es d'origine haïtienne, et t'es installée en France depuis de nombreuses années maintenant. Et t'as même la nationalité, ça y est.
J'ai la nationalité depuis 2019.
Et voilà, tu peux voter et tout ça.
J'ai voté.
À voter, Madame Laveau, bravo. Et a sorti des albums magnifiques. Le tout nouveau, donc, s'appelle At My Softest, I'm the Most Dangerous.
Exactement.
Qui veut dire, je vais te faire traduire plein de trucs ce soir.
À ma plus douce, je suis ma plus dangereuse.
C'est ça. Parce que, évidemment, la douceur, vous l'entendez dans la voix de Mélissa, mais sachez que, voilà, elle est également féroce quand il le faut et quand le monde le réclame. Mélissa, le fait que tu aies ce parcours avec plein de lieux dans ta vie, donc le Canada, Haïti, la France, etc., ça infuse beaucoup dans ta musique. Comment tu décrirais le style musical de ce nouvel album ?
Eh bien, j'étais en train de mettre l'album sur Bandcamp ce matin.
Ah, et donc il faut le définir.
Et du coup, il faut le définir. Et j'ai genre afro, psychedelic, pop rock.
Ouais,
et je trouve que c'est de la pop, mais c'est surtout du rock, et puis c'est afro psychédélique.
Et puis ton jeu de guitare, il est quand même très blues, quoi qu'il arrive.
Il est percussif. Oui. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui reconnaissent le bluegrass dans mon style de finger picking. Je sais pas comment dire ça en français.
Ce qu'on fait avec les doigts.
Le doigté.
Comment tu pinces les cordes.
Exactement.
Et voilà. Elle est donc guitariste, autrice, compositrice, chanteuse. Alors sa voix est très voilée ce soir parce que Mélissa, t'as déjà commencé la tournée.
Mais franchement, j'ai l'impression que les gens ils remarquent pas, parce que normalement ma voix de chant n'est pas pareille de ma voix
parlée,
habituelle, usuelle.
Ouais.
Et là, en fait, ça match.
C'est ça. Elle a une voix de chanteuse quand elle me parle. Elle est encore plus mystérieuse. Alors Mélissa, rentrons dans le vif du sujet, parce que des concept albums, j'en ai écouté des kilomètres, t'aurais pas voulu les faire à pied, mais là, franchement, un concept dans lequel une jeune femme d'une quarantaine d'années arrive à sortir autant de chansons racontant les moments où elle a frôlé physiquement ou métaphoriquement la mort, je suis épatée. Ça merci. T'est arrivé tellement de fois. Tu penses que ça arrive à tout le monde de frôler la mort et qu'il faut juste avoir les bons yeux pour s'en rendre compte ?
Oui. Je pense qu'on est beaucoup plus proche de la mort qu'on ne le pense. Et que c'est beaucoup plus banal que ça, en fait.
Ouais.
On vit, on meurt, comme on mange, comme on pète. Genre, c'est tout
c'est de la poésie québécoise. Comme on vit, comme on pète.
Mais c'est vrai, mais tout le monde y passe. Tout le monde y passe.
Ah oui, c'est la fin de l'histoire pour tout le monde.
Oui, et je trouve que c'est... Ouh, ben, si on écoute la dernière chanson de l'album, c'est genre, ben, c'est pas ton dernier rodéo.
Ouais.
Et il y a ce truc où... Moi, j'ai grandi avec des parents qui avaient perdu tellement d'amis avec la dictature en Haïti que c'était absolument normal de parler de la mort comme quelque chose, et c'est absolument normal de parler des gens qu'ils avaient perdus comme présents quand même, qu'ils n'avaient pas entièrement perdu,
ouais.
Que ces gens étaient présents dans leur quotidien.
Et puis aussi, dans la culture haïtienne, on a un autre rapport avec la mort.
Absolument, un autre rapport avec la mort. Il y a un mois entier, vous célébrez la Toussaint pendant un jour.
Un jour.
Les Haïtiens célèbrent tout le mois de novembre.
C'est ça. Et du coup, c'est vrai que en plus de tout ça, de toutes ces explications-là, il se trouve que depuis que t'es petite fille, de toute façon, ce qui est macabre, tu trouves pas ça laid ?
Non, parce que j'adore les films d'horreur. Ma mère était moins maman hélicoptère. Que ma sœur, par exemple. Ma sœur et maman hélicoptère, mais vraiment sympa. Ses filles sont adorables.
Mais donc, elle les surveille tout le temps.
Elle surveille tout va bien.
Ouais.
Maintenant, ses filles, elles vivent leur vie, elles sont très indépendantes. Et ma mère était un peu laxe parce que, et je me suis rendu compte que les films d'horreur, le premier film d'horreur que j'ai regardé à 4 ans.
Ah, c'est tôt.
C'est tôt. C'est Child's Play.
Oh purée, c'est Chucky, c'est la poupée de Chucky.
La poupée de Chucky.
Mon Dieu, mais Mélissa a 4 ans.
Et j'avoue que j'avais peur parce que j'ai demandé à ma mère de recouvrir toutes mes poupées et j'en avais beaucoup. Il faut recouvrir les poupées, je peux pas les voir.
C'est horrible parce que en plus Chucky, il est tellement méchant, il parle trop mal, il dit des gros mots et tout.
Mais il y a une cérémonie vaudou.
Oui,
personne se souvient, mais il y a une cérémonie vaudou au début et ça a commencé mon histoire d'amour et de haine avec les films d'horreur, parce que il y a des films d'horreur où moi je suis comme oh ben c'est bon, ça va, c'est bon. Et après ça, il y a des trucs où je suis comme il y a des films d'horreur par exemple avec des nonnes, The Omen, quand ça se passe dans l'église catholique, là je suis genre j'ai vu des choses. J'ai déjà vu des choses, ça c'est pas si loin de la réalité que ça.
Vous dites film d'horreur, je dis documentaire. C'est ça. Mélissa Lavo, cet album est une merveille, alors par quel bout le prendre ? Je vous propose de vous faire écouter une première chanson, elle s'appelle Yemaya. Là, ça raconte, cette chanson, un souvenir récent, et la narratrice de la chanson, c'est toi, puisqu'en fait, selon les moments de ta vie et selon l'approche que tu as eue ou pas de la mort, il y a des narrateurs et des narratrices différents dans tes chansons. Là, c'est toi qui raconte un souvenir.
C'est moi qui raconte. On était en tournée au Brésil et on était à Bahia. Et sur les plages de Bahia, en fait, les vagues sont assez violentes. Et moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait un énorme drapeau rouge. Mais le drapeau rouge qui fait parce que...
Il fait la taille du studio.
Il fait la taille du studio. Et puis moi, je suis genre, j'ai ignoré le drapeau rouge et c'est flag pour moi. Et du coup, je rentre dans l'eau parce que moi, j'adore être dans l'eau avec mes lunettes. J'adore regarder les petits poissons. Je suis très myope. Sauf que une vague arrive et je suis prise à genoux. Genre, et en fait, je trouve ça tellement drôle. C'est comme si on m'a raconté une blague. Et je ricane hyper fort. Mon pote, qui est mon bassiste, qui est de l'autre côté de la plage, il dit, on t'entendait de hyper loin. Et tu riais, tu ricanais comme si t'étais possédée. Et je suis genre, oups. Et du coup, moi, je ris, mais j'ai même pas le temps de sortir de l'eau parce qu'une autre vague arrive qui est deux fois plus haute que celle-ci. Et ça bouffe mes lunettes. J'avais des Ray-Ban hyper belles de vue. Ça bouffe mes lunettes et du coup je dis bon ben c'est ça, heureusement j'ai des lunettes backup de scène pour terminer cette tournée. Et quand on a joué ce soir-là à Bahia, les gens, j'ai raconté cette histoire, ils disaient Yemaya, t'as pris tes lunettes, ah quelque chose de très bien va t'arriver. Et en fait j'ai juste quitté mon ex quelques mois plus tard.
Bah, c'est pas
parce
mal,
que
ça.
J'ignorais le gros drapeau rouge dans ma vie. Et comme j'ai ignoré le gros drapeau rouge
de sur la plage à Bahia. Alors, Yemaya, c'est la déesse de la mer.
C'est la déesse de la mer qui adore venger les femmes. Et c'est pour ça que j'ai pris ça personnellement.
Et dans les histoires qui accompagnent l'album, que tu ignores des recommandations. Il y a une autre chanson comme ça qui s'appelle The Rain, The Dogs, The Beach, The Ghost. La pluie, les chiens, la plage, le fantôme. Où une gentille vieille dame te dit à toi et à ta sœur, n'allez pas par là.
Non, c'est une copine. Ah. Ma sœur n'a jamais été à Marie-Galante. Je lui recommande, mais elle n'est pas une grande voyageuse.
D'accord. Donc c'est à Marie-Galante.
Marie-Galante, je suis avec une copine, parce que je jouais à Terre des Blues. Et en fait, elle me dit, hey, on n'irait pas escalader les roches sur la plage. Donc je dis, ok, pourquoi pas. C'est la journée off. Et du coup, on marche. Au fur et à mesure qu'on marche, énorme pluie. Déluge tombe sur nous. On dit, comme c'est pas possible. Du coup, on rentre dans un petit boubouille. Et il y a une dame qui nous offre des snacks, qui nous permet de donner des serviettes pour se sécher. Puis elle dit, ah, vous allez quoi? Vous faites quoi ici? En tout cas, journée off, on va sur les pierres. Et les roches.
On va escalader.
Non, vous devez pas y aller. Et puis, c'est le dernier jour. Demain, on part et tout. C'est la dernière journée pour un peu découvrir l'île. Et je conseille pas d'y aller. Elle nous dit trois fois, ne veut pas.
C'est fou. Ce qui est intéressant, c'est que donc déjà il y a la pluie torrentielle qui devrait t'arrêter, elle t'arrête pas. Ensuite t'as la dame, la messagère qui te dit trois fois, n'y va pas.
Et vous avez dit bon ben vous faites comme vous voulez. Donc nous on sort du oui et il y a un chien de rue qui commence à nous suivre. Là on est comme ok tant qu'il nous mord pas c'est bon. Au bout d'une demi-heure, il y a un deuxième chien de rue qui commence à nous suivre. Et puis là, on marche deux heures et il y a les chiens de rue qui sont encore en train de nous suivre. Et puis on se dit, bon, bah, c'est nos chiens, c'est fini. Et on arrive à la plage, on se met à grimper les roches et c'est des roches volcaniques, donc c'est un peu...
C'est
assez effilé, ouais. Et moi, j'ai mes petites noix de princesse guitariste et du coup, je suis comme, mais je grimpe quand même. Et moi, mon chien... parce qu'on a chacune notre chien, mon chien commence à me mordre. Je suis comme, non, c'est pas possible. Déjà, les pierres, elles font hyper mal. Mais aussi d'avoir le chien qui mord, c'est pas possible. Et je me rends compte que le chien est en fait en train de prendre mes mains, et les attraper et les retirer de la roche. Et moi, je suis genre, mais c'est pas possible. Et du coup, à ce moment, je dis à mon ami, écoute, je veux pas continuer. Je pense que j'ai eu assez de signes. J'ai eu trois signes.
Trois signes énormes.
J'ai eu la pluie. J'ai eu les chiens, j'ai eu la vieille dame. C'est bon. Et puis, elle dit, non, on fournit un peu. Et je suis comme, non, s'il te plaît. On descend. La minute que nos pieds touchent la plage, les chiens, ils disparaissent. Comme ils partent. Ils sont comme, c'est bon, on a accompli notre mission.
On a sauvé les meufs.
Et je demande à cette copine, du coup, c'était quoi le nom de la dame par curiosité? Et puis, elle me dit, c'était Brigitte. Et du coup, moi, n'étant pas vaudouisante, je cherche vaudou haïtien, Brigitte. Et maman Brigitte, c'est la femme de la mort. La femme de la mort, et la mort étant Baron Samedi. Et du coup, quand c'est ton jour pour toi, c'est le jour pour toi que tu meurs, elle t'amène vers son mari. Mais si c'est pas encore ton jour, elle te prévient, elle est comme non.
Ne va pas.
Viens par ici, je t'amène ailleurs. Et on est repassé par le Wibri, sa petite boutique, son kiosque, et c'était fermé comme si c'était fermé depuis des mois ou des années.
Est-ce qu'elle avait plus besoin d'être là?
Elle avait plus besoin.
Voilà, le genre d'histoire incroyable dans l'album de Mélissa Lavo. Et là où Mélissa, je te remercie d'avoir fait ça, c'est que toi tu chantes, alors tu peux chanter en français, en créole haïtien, en anglais évidemment, mais pour qu'on comprenne bien, en fait, tu as créé les petites histoires qui vont avec les chansons. C'est un synopsis, en fait, pour chaque, oui, pour chaque chanson, pour qu'on ne soit pas paumé et pour qu'on puisse voilà, comprendre toutes ces aventures-là et tout ce
et
chemin.
Ce sera développé en un petit carnet. J'essaye de me dépêcher, mais il y a tellement de travail en ce moment. Mais ce sera un petit carnet et comme ça, les gens ils pourront lire les histoires individuellement et puis s'imprégner un peu de l'atmosphère dans laquelle j'étais plongée.
Eh oui, et croyez-moi, vous avez envie de voyager avec Mélissa Lavo. Alors, on n'est pas toujours complètement en sécurité, mais on ne s'ennuie pas. On peut dire ça comme ça, Mélissa?
On peut se dire que je prends beaucoup de risques.
On peut se dire que ce n'est pas le moment d'ouvrir une agence de voyage.
Non.
Mais voilà, vous pouvez. Elle a quand même les meilleures anecdotes. Les soirées diapo chez Mélissa Lavo, ce n'est pas emmerdant. Voilà, c'est l'avantage.
Je songerai.
Do As I Say, c'est une chanson qui est intéressante aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, tous les moments où Mélissa Lavo a côtoyé la mort. Alors, parfois, oui, c'est la mort, vraiment, c'est le baron samedi. Et puis, parfois, c'est juste une déception, un trauma, du mal, de la peine qui peut nous faire décliner. C'est,
oui,
c'est ça, un peu, Do As I Say.
Là, c'était mon coming out à mon père. Mon coming out à ma mère a été assez, c'est pour les deux parents, mais là c'est spécifiquement en pensant à mon père.
Parce que t'as pas fait ton coming out en même temps avec ton père et avec ta mère.
Non, parce que je l'ai dit à ma mère et elle a fait chanter une messe parce que à la maison, parce qu'il y a un prêtre qui habitait au sous-sol
normal.
À l'époque, normal, qui a essayé de me convaincre que les Noirs ne sont pas homosexuels. Et après ça, a chanté une messe. Après ça, ma mère a demandé à ce que sa fille soit mariée à un homme grand. Elle a insisté grand. C'était assez drôle qu'elle fasse des enfants.
Okay.
Et moi, j'ai insisté que ma mère comprenne que je connais l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Et je sais que Dieu m'aime. Et j'espère que ma mère, elle m'aimera comme Dieu m'aime. Et ma mère a dit, sors de chez moi, espèce de démon, tu n'es pas ma fille. Et elle a raconté à mon père que j'étais lesbienne. Et un mois plus tard, je tournais, parce que là, j'habitais déjà en France. Et je tournais à Toronto un mois plus tard. Et du coup, en tournant à Toronto, mon père, il avait prévu de me voir, d'aller au concert. On a déjeuné. Et il a dit, oui, ta mère m'a dit ce que tu lui as dit. De toute façon, tout le monde pense que c'est une phase.
Ah.
Et après ça, il a enchaîné avec, tu veux plus de saucisses? Genre, mon père est tellement déconnecté des fois. Il a littéralement dit, on est entre brunch, il a dit, tu veux plus de saucisses.
C'est magnifique. Ah là là, les psychanalystes se régalent. Et là, Mélissa a dit, non, je voudrais des huîtres, s'il te plaît, papa.
J'adore les huîtres en plus, j'adore.
Ben voilà.
C'est même pas un euphémisme, j'adore les huîtres. C'est usagé, n'aïsabé. Said your heart could carry disaster. Disaster came through. Said do as I say, not as I do. Who's calling you a monster? I look just like you. I could have been a good daddy.
juste une phase pour Mélissa Lavo. Peut-être aussi c'est juste une phase pour ses parents qui vont, à un moment ou à un autre, la regarder avec l'amour inconditionnel qu'elle mérite. C'est un peu ça que dit cette chanson, à la fois souvenir super traumatique et chanson très joyeuse. Pourquoi ?
Parce que je me dis que je suis peut-être pas ici pour longtemps, mais au moins je serai ici pour un bon temps.
Ouais.
Et que mais c'est tellement plus facile de voir les choses, de repositionner les choses de manière joyeuse, tellement j'ai vécu des couilles que c'est plus facile de les repositionner de manière joyeuse, comme des choses que j'ai traversées, des choses qui ont fait en sorte. Il y a cette citation que j'adore et je sais pas de qui elle vient. En général, j'aime bien, mais là c'est tu ne sais pas combien, quelle dureté ça a pris pour me rendre aussi douce. Et ça aurait pu être le titre de l'album, mais je me suis dit non, c'est trop dur. Je voulais un truc un peu plus solaire, mais aussi un truc qui tenait les gens à carreau. Genre, même si je suis assez vulnérable en ce moment, ça veut pas dire qu'on peut me faire d'autres couilles. J'en ai eu assez.
Elle a eu sa dose. Lassie Miel, c'est une chanson de l'album, celle avec qui on se dira au revoir tout à l'heure, mais je trouve qu'elle est très intéressante parce que là encore c'est toi qui racontes ton histoire. Et ce que je ne savais pas, c'est que ton prénom Mélissa, ça veut dire abeille, et les abeilles c'est pas n'importe quels animaux dans ta culture.
Non, mais pas seulement dans ma culture, mais dans presque toutes les cultures, les abeilles représentent des messagères entre le monde des vivants et des morts. En Amérique du Nord, c'est on dit toujours tell it to the bees, va le dire aux abeilles, va le raconter aux abeilles. S'il y a une naissance, s'il y a un mariage, il faut que les ancêtres ils le savent.
Et c'est grâce aux abeilles.
C'est grâce aux abeilles.
Pourquoi c'est pas ça chez nous? J'ai trouvé ça super beau comme.
Les Anglais par exemple, si les charmeurs ou les charmeuses d'abeilles meurent dans la famille, il faut cogner trois fois sur la ruche pour dire s'il vous plaît les petites abeilles ne nous quittez pas. Votre maître ou votre maîtresse est partie, mais ne nous quittez pas.
C'est
et
beau.
Et je trouve ça tellement beau. Et à chaque fois. Il y a une sorte de relation et tout. Et du coup, j'aimais beaucoup cette histoire des empereurs, des pharaons d'Égypte qui se mettaient en sarcophage avec leur peau de miel et embaumaient leur corps de miel aussi pour mieux le préserver. Et je trouvais que quand je me suis confrontée à la maladie, je me suis dit, en fait, il va falloir que je fasse un choix. C'est soit le choix de genre me laisser pourrir ou de me battre jusqu'au bout, et que tant que je suis vivante, que je vais me battre pour ce corps en fait, et que ce corps je vais être très gentille. J'ai été pas très gentille avec ce corps pendant beaucoup d'années parce que voilà, la société nous dit de détester nos corps, que
surtout quand on est des filles,
c'était trop moche, blablabla et tout. Et là, et je me suis dit non, je vais l'accepter de manière radicale et je vais être hyper sympa avec, je vais être hyper douce avec, et c'est là. Et puis du coup c'est un peu le résumé de l'album aussi où je parle de moi comme si j'étais une abeille.
Ouais, et à la fois c'est vrai que c'est quand même dingue, enfin je vais pas te dévoiler toutes les chansons, mais ton parcours et la façon dont tu croises la mort assez régulièrement, c'est quand même assez dingue. Déjà quand tu nais, tu sauves la vie de ta mère.
Bah, oui, parce que ma mère avait un cancer du col de l'utérus.
Et en fait, le fait d'être enceinte,
oui, ça donne des cellules souches gratuites. Du coup, c'est un traitement assez efficace contre le cancer. Et puis en même temps, ma mère elle a galéré à arriver à l'hôpital. En fait, personne ne voulait l'emmener. Donc c'est cette histoire-là que je raconte. Et puis après ça, tout le monde disait mais Mélissa, à chaque fois, elle tombe malade, elle va pas survivre, passer l'âge de 6-8 ans. Et puis en fait, on voyait grandir. Oh, elle tenue.
Elle tient.
Tiens.
C'est fou. Mélissa Lavo. Donc c'est à la fois des histoires, extrêmement terre à terre, et à la fois super poétiques. Ça nous amène dans des mondes avec lesquels on ferait pas d'habitude. Et merci pour le voyage, hein, parce que ça vraiment, ça nous fait du bien.
Merci.
Je pense que c'est aussi une de tes missions sur cette terre, quand même. C'est de nous ouvrir un peu l'esprit.
Ah, moi je trouve que j'ai tant la tentation de voir les choses un peu plus positivement et d'être, en fait, ça prend tellement peu d'efforts d'être sympa, en fait.
C'est vrai.
Ça prend tellement peu d'efforts d'être sympa. Il y a régulièrement, moi, je me reprends et je suis genre, tu sais pas ce que vit cette personne et tu sais pas dans quel état elle est. Juste donne-lui un peu de grâce. Tu vas te calmer, tu vas donner un peu de grâce. Et ouais, et après ça, j'aime être conteuse, j'adore faire rire les gens, j'adore faire rire ma sœur. C'est un peu ma mission de vie, c'est de faire rire. Et je suis malheureusement pas clown, je suis musicienne.
Heureusement pour nous, une musicienne en tournée. Bonne route, ma chère Mélissa.
Merci, Émilie.
S'il y a des signes sur le chemin, hein, des red flags, des dames qui disent « Ne prenez pas ce chemin !» Cette fois-ci, tu les écoutes?
Je les écoute, mais surtout, je les accueille.
Essentiel de Décibel, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France.
L'infertilité, ça concerne un couple sur quatre. C'est un sujet majeur et c'est encore tabou.
Dans le podcast Gamètes, Issy et Anna Roy racontent le parcours d'infertilité de Charlotte, Maxime, Manon, Emmanuel, Sandrine.
Des témoignages puissants, des décryptages précieux.
Gamètes est disponible sur la plateforme Radio France et l'appli Issy. Issy, les essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Éric Serra.
Un de vos compositeurs de musique de film préférés. Serra ne monte pas ce soir les marches du Festival de Cannes comme il avait fait en 88 pour la première présentation du Grand Bleu dont il a signé l'inoubliable musique. Non, il est avec nous en direct dans Décibel pour célébrer ses 45 ans de création musicale et vous présenter la tournée anniversaire qu'il fera voyager partout en France à l'automne prochain. On y plonge. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Bienvenue dans Décibel. On est ravis de vous recevoir à nouveau. La dernière fois, c'était la première saison de cette émission, je me souviens. Et vous étiez déjà en train de nous parler de live et de concert. C'était autour de la musique du Grand Bleu. Là, c'est autour de tout votre répertoire. Mm-hmm. 45 ans de création musicale. Bon, vous les faites pas. Ça ouais. Fait mal de compter ou pas?
C'est horrible.
Et à la fois, ça veut dire que voilà, c'était plutôt une bonne voix, cette histoire de musique de film quand même.
Oui, 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 je suis très... je me rends compte de la chance que j'ai justement d'être encore là, après tant d'années, mais en même temps, ouais, je préférais quand ça faisait 5 ans.
Alors justement, tiens, est-ce que quand vous aviez 5 ans, 6 ans, 10 ans, quand vous étiez gamin, vous rêviez d'être compositeur de musique de film? Je vous pose la question, parce qu'à vos débuts, vous partiez pas tellement dans ce sens-là. On vous a entendu notamment aux côtés de Higelin.
Qu'elle manque de classe.
De la scène avec lui, du studio, vous avez même écrit des chansons ensemble.
Ouais, celle-ci avec... d'ailleurs.
Ouais. Oui, je ne l'ai pas choisie au hasard, on bosse un peu, c'est le service public.
C'est la toute première, celle-là, en plus, et ça faisait, ça devait faire 15 jours que j'étais avec lui.
Ouais. Et il vous a fait confiance?
Bah en fait, j'étais en train de jouer de la basse comme ça, et puis j'étais en train de faire ce gimmick de basse, et il a dit oh, c'est quoi ça, et puis il a commencé à chanter dessus, et voilà, c'est devenu une chanson.
Ouais, donc à ce moment-là, vous pensiez déjà aux musiques de film, ou bien vous voyiez musicien, peut-être même chanteur, ou en tout cas guitariste, etc.
Ouais, non, moi j'avais commencé ma carrière très jeune, à 17 ans, j'étais musicien professionnel, et j'étais parti pour faire une carrière d'instrumentiste. C'était ça qui me fascinait et dont je rêvais depuis que j'étais gosse. Et j'avais jamais pensé faire de la musique de film, ça m'intéressait pas particulièrement. C'est vraiment Luc Besson qui m'a demandé ça. On s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Et moi, j'étais donc déjà musicien professionnel. Lui, il avait encore rien fait. Il avait été assistant sur un film, je crois. Et en fait, il a fait son premier court-métrage quelque temps après ça. Et il m'a demandé de composer la musique. Et au départ, moi, je lui ai même dit non, je suis pas compositeur. Je suis juste musicien. Ouais. Mais il a insisté parce que il sentait quoi que si je devais être compositeur parce qu'il m'avait vu improviser, c'est ça qui lui faisait penser que j'étais compositeur. Et puis évidemment quelques années plus tard, je l'ai beaucoup remercié d'avoir insisté parce que vraiment, j'avais jamais pensé faire ça et j'ai jamais été particulièrement intéressé par la musique de film.
C'est intéressant que vous disiez qu'il vous a beaucoup remercié, que vous l'avez beaucoup remercié, pardon. Mmh. Et j'allais dire, lui aussi peut vous remercier parce que vos musiques, elles ont donné une dimension vraiment supplémentaire au film. Je pense, Subway. Il y a des moments comme ça, on voit les images. Enfin, c'est complètement collé, corrélé. Et puisqu'en ce moment, c'est le Festival de Cannes, je me posais la question, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place qui est donnée aux compositeurs de musique de film? Par exemple, à Cannes, il n'y a pas de prix pour la meilleure musique.
Ouais, je sais.
Il y a un César quand même, que vous avez eu d'ailleurs.
Ouais.
Mais à Cannes et dans plein de festivals de films, finalement, la musique, c'est un peu la cinquième roue du carrosse, on n'en parle pas, quoi.
Ouais, je suis d'accord que c'est pas normal et c'est dommage parce que. Enfin, d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça, notamment à Cannes, pour qu'il y ait un prix pour la musique.
Ouais.
Mais apparemment, ils y sont pas encore arrivés. Mais c'est vrai que c'est dommage et puis il n'y a pas de raison. En plus, ils devraient y avoir un prix. Il n'y en a plus non plus d'ailleurs aux Victoires de la musique.
Ouais. Mais il n'y a plus rien aux Victoires maintenant. Il y a 5 catégories, il n'y a vraiment plus grand chose aux Victoires.
Hein. Ah bon?
Ah bah oui. Non, c'est pas ouf. Il n'y a plus l'album rock, il n'y a plus l'album électro. C'est tous les albums, ils sont dans une seule catégorie. Il n'y a plus de niche.
Ah, je ne savais pas. Vous voyez.
C'est bien, ça vous passionne.
À quel point je suis. Ouais.
Mais c'est vrai que le compositeur de la musique, il est co-auteur du film, officiellement, au même titre que le réalisateur avec le scénariste. Et il me semble parfois, oui, qu'ils ne sont pas autant considérés que les autres.
Ben oui, je ne saurais pas vous dire pourquoi.
Je sais pas, faut un autre ministre de la culture, j'en sais rien, mais je trouve que c'est important parce que en plus c'est une façon de faire de la musique qui est différente et qui pourrait parler à plein de gamins qui font de la musique aussi, enfin parler de ce métier-là. Il faut faire de la musique de jeux vidéo, faut faire de la musique pour les séries, enfin c'est
quand même... Ouais, non, il y a beaucoup de travail là-dedans et c'est passionnant. Hein, je dois dire que même si tout à l'heure je disais que j'avais jamais été intéressé par la musique de film. Depuis que j'en fais, par contre, oui, j'adore ça. C'est passionnant à faire. Ça, je m'y intéresse toujours pas plus que ça, mais comme travail, quoi. C'est extrêmement passionnant. C'est magique, en fait. Quand on commence à travailler sur une scène, et puis dès qu'on trouve le truc, quoi, soudain, c'est magique. La scène prend une autre dimension. Soudain, et même soi-même, le compositeur, on se fait attraper nous-mêmes, quoi. C'est vraiment magique. Et l'avantage aussi de la musique de film, par rapport à la musique sans film, c'est que on peut passer d'un style à l'autre sans que ça dérange personne. Alors que si on est chanteur, ou c'est difficile, si on peut pas faire un album de rock et puis après faire un album de jazz, les gens ils vont pas comprendre, quoi.
Oui.
Alors que dans la musique,
faut être Gainsbourg, je vais faire du reggae, mais c'est pas tout le monde.
Oui, ouais. Oui, c'est vrai. Gainsbourg, il s'est permis. Et
oui,
il
mais c'est rare.
Mais enfin, ouais. Et puis, en plus, c'est pas exactement. C'était du reggae, c'était la mode de ce moment-là. En fait, il était juste dans l'air du temps, quoi. Alors que la musique de film, donc, ça a cet avantage, c'est que d'un film à l'autre, moi, j'ai fait des musiques totalement, enfin, plutôt rock, comme Subway, c'était ambiance groupe de rock. Ensuite, Le Grand Bleu Nikita, c'était plutôt, c'était l'ancêtre de l'électro.
Ouais.
Ensuite, j'ai commencé à intégrer du symphonique là-dedans. Ensuite, j'ai fait certaines BO entièrement symphonique. Enfin bref, ça m'a permis vraiment de passer d'un monde à l'autre sans que ça gêne personne.
Ouais, c'est ça. Donc pas de frustration de musicien peut avoir quand on est, c'est vrai, oui, quand on est dans un style.
Ben voilà, du coup, c'est, pour moi, c'est passionnant, ça, c'est génial.
All the mystery in the light. It's only mystery.
Way, je résiste pas au plaisir d'écouter It's Only Mystery. Parce que ça aussi, c'est chouette, quand même, Eric Serra, de se dire oui, je fais de la musique de film, mais je fais aussi des tubes du top 50 dans mes musiques de film. Ah ouais?
Oui, j'ai pas fait exprès. Hein. Je suis ravi que ce soit un tube.
Eric Serra n'a pas fait exprès. Ça, dès le départ, vous vous êtes dit, Eric Serra, que quand vous ferez des musiques de films, vous alliez mettre aussi des chansons dedans, parce que c'est pas obligé, on peut juste faire le score, faire comme ça des musiques instrumentales.
Ben, disons que moi, j'avais pas prévu de faire de la musique de film. Du coup, j'ai pas du tout été influencé par ce qui se faisait en musique de film. Donc moi, mes influences et ma culture, c'était surtout à cette époque-là, c'était surtout le rock, tout simplement. Ouais. Moi, je venais de là, et du coup, pour moi, faire des chansons comme ça, c'était assez logique. C'était, puis même le style de musique de toute la BO de Subway, par exemple, c'est de là que je venais, et je m'étais pas du tout intéressé à ce que faisaient les autres en musique de film, donc. Voilà, moi j'ai fait ma... C'est pour ça d'ailleurs, pendant des années, ça me dérangeait qu'on dise que j'étais compositeur de films. Parce que moi j'étais juste musicien, et ok, compositeur, mais pas... je me sentais pas faire partie d'une espèce de confrérie de musique de film. Et cette chanson, je tiens à préciser...
Oui.
Que je ne l'ai pas faite tout seul, on l'a composée ensemble avec... Enfin, je l'ai composé. Corinne Marieno a écrit les paroles.
Le téléphone.
Ouais.
Ouais.
Et ensuite, Louis Bertignac est venu faire les guitares et c'est lui qui a fait un peu la réalisation de la chanson. Et il a amené vraiment beaucoup, quand il a fait la réal, notamment toutes les parties de guitare, c'est lui qui les a écrites, quoi. Et le fameux gimmick, le toup, 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 qu'on entend presque tout le long. C'est lui qui a eu cette idée. Or, mais mine de rien, c'est le gimmick de la chanson, un peu. Quoi. Donc, on a tout signé ensemble, finalement.
Ouais. Est-ce que cette chanson, elle fait partie du spectacle Eric Serra Live, qui va donc célébrer, je le rappelle, vos 45 ans de création musicale? Ça ressemble à quoi?
Oui, cette chanson en fera partie, évidemment, parce que je suis un peu obligé, quand même.
Je pense que les gens attendent quand même certains moments.
Et puis, contrairement à certains, malheureusement, je n'ai pas fait que des tubes. Donc, les quelques tubes que j'ai fait, il faut qu'ils soient dans le spectacle.
Ouais.
Je pense à ça parce que l'autre jour, c'était il y a quelques années déjà, mais j'étais à un concert de Sting et j'étais avec lui dans sa loge avant le show, juste avant qu'il monte sur scène. Et il avait sa setlist à la main. Et du coup, je lui ai dit, tiens, fais voir. Et j'ai regardé la setlist. Et là, j'étais assez impressionné quand même, parce que c'était que des tubes.
Que des tubes.
C'était 100% de méga tubes planétaires.
Ouais.
Là, effectivement, du coup, ça calme.
Donc, il y aura les tubes, Eric Serra live. Est-ce qu'il y aura des extraits de films? Est-ce que c'est un son et lumière? Parce que, alors, moi, j'ai lu des trucs formidables. On me dit que sur scène, vous serez tour à tour bassiste, chanteur, chef d'orchestre. Il y a plein de musiciens avec vous. Ça ressemble à quoi, le show?
Alors... On va être environ une trentaine de musiciens, ouais. C'est un genre de groupe pop, entre guillemets. C'est-à-dire batterie,
groupe
guitare.
Pop, ils sont trois, hein. Donc là, c'est 10 groupes pop, vous.
Non, mais c'est parce qu'on est un groupe façon, un peu le même que la même formation que j'avais pour le ciné-concert Grand Bleu.
Ouais.
C'est-à-dire deux batteries, deux claviers, un sax, une guitare. Moi, principalement à la basse, deux choristes et une vingtaine de cordes. Et moi, j'ai l'intention, oui, de jouer un peu de tout. Je vais m'amuser, comme j'ai la chance de savoir un peu jouer de plusieurs instruments, j'ai envie de m'amuser, quoi. Alors, c'est pas un ciné-concert, contrairement au Grand Bleu. C'est un spectacle musical qui retrace toute ma carrière, quoi. C'est une rétrospective. Il y aura parfois quelques projections, mais c'est pas l'essentiel du spectacle. La plupart du temps, ce sera des lights, des décors, des ambiances qui nous replongeront dans l'ambiance des films, mais sans pour autant avoir des images du film.
Vous avez parlé du Grand Bleu. Il faut qu'on en parle, évidemment, du Grand Bleu, parce que votre musique, Eric Serra, cette BO, on parlait des tubes de Sting, là c'est un énorme succès. C'est 3 millions d'exemplaires vendus et en 4 secondes, vous êtes sous la flotte avec Jacques Mayol. Et c'est dingue que vous nous ayez dit que voilà, vous n'aviez finalement pas tant d'expérience que ça en composition de musique de film, parce que tout colle parfaitement, les scènes de comédie.
Ayuda !
Là, moi, je vois la tête de Jean Reno, immédiatement. Immédiatement, il y a des moments romantiques. Et les moments sous l'eau. Bleu, on l'a tous écouté. C'était un travail solitaire, cette BO.
Ah bah, c'est toujours un travail solitaire quand on compose. On est tous. Enfin, moi, je suis enfermé dans mon studio tout seul pendant des mois. C'est toujours un travail solitaire. C'est comme écrire un bouquin, c'est un travail solitaire.
Alors, à part que vous n'avez pas été que enfermé dans votre studio, vous avez pris des cours d'apnée pour essayer de comprendre le personnage.
Oui, mais ça, c'était avant.
Ouais.
C'est avant de commencer à écrire. C'était, oui, parce que je voulais absolument ressentir ce dont parlait Jacques Mayol, le vrai Jacques Mayol, dans son documentaire sur lequel il y avait sa voix en voix off. Et ça m'avait complètement bouleversé, ce documentaire, je trouvais ça, parce que c'était à la fois un exploit sportif de très haut niveau, il était champion du monde, et en même temps c'était très spirituel, très, très zen, très philosophique. Et cette combinaison me convenait parfaitement. Donc je voulais absolument aller ressentir ce dont il parlait, parce que je sentais que ça avait l'air tellement fort et tellement beau que je voulais aller le ressentir moi-même. Et pour ça, du coup, je me suis entraîné. Ouais, on a eu de la chance parce qu'on a été initié par Jacques Mayol lui-même.
Le champion du monde d'apnée qui vous apprend l'apnée.
Voilà, qui nous a appris sa technique et après, on s'est entraîné grâce à sa technique et c'était. C'était incroyable.
Et ça vous a inspiré ?
Énormément, oui.
Ouais.
Alors, l'inspiration, elle vient pas instantanément. C'est-à-dire que quand j'étais sous l'eau pendant plusieurs minutes.
Combien vous avez fait ?
J'ai fait 45 minutes.
Non, t'es fou. Non, mais parce que vous n'aviez jamais fait d'apnée.
Non, j'en avais jamais fait. Et en fait, quand on a commencé à s'entraîner, au bout de 3 semaines, j'avais 2 minutes 30.
Ah ouais ?
Ce qui est déjà pas mal, ouais.
Oui. Là, moi, par exemple, 2 minutes 30, j'ai le temps de mourir, donc bravo.
Oui, quand on n'est pas entraîné, en général, en moyenne, on doit tenir, je sais pas, à 30 secondes.
Ouais, c'est ça.
Mais dès qu'on s'entraîne, assez rapidement, on atteint des chiffres comme ça.
Okay.
Après, on est loin des records. Hein. Les records, c'est 7, 8 minutes, même plus que ça, je crois. Mais déjà, 2 minutes 30, ça permet quand même de ressentir des choses qui ressemblent à rien d'autre. Quoi. C'est unique, ce qu'on ressent. Et du coup, c'est très fort comme émotion. Et en fait, ces émotions et la puissance de ces émotions qui sont une nourriture idéale pour la création et la créativité et l'inspiration. Mais c'est pas au moment où j'étais sous l'eau que j'entendais la musique du Grand Bleu. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pour la version dessin animé.
Oui, c'est ça. Project UMO, c'est le nom de votre dernier album, Eric Serra. Ouais. C'est pas une bande originale de film.
Non, c'est mon deuxième album.
En 45 ans, bravo.
Voilà, ouais. Je suis pas ce qu'il y a de plus prolifique, ouais.
Ouais, mais l'idée est géniale. Vous êtes passionné par l'espace depuis que vous êtes tout petit, c'est un truc de gamin?
Ouais. Oui, c'est un truc de gosse. Bah, j'ai vu quand j'étais gosse les premiers hommes marcher sur la Lune.
Ouais.
Et à l'époque, c'était de la science-fiction absolue, quoi. Donc, ça m'avait totalement fasciné. Et depuis, j'ai toujours été passionné par ça, ouais.
Alors, l'album nous emmène dans tout un tas d'endroits du cosmos, de la galaxie, et donc dans la station spatiale internationale, the ISS, le Lebay. Titre. Ça commence avec Astronaute et ça finit par Return to My Planet. Donc c'est quand même un petit peu un film, puisque il y a un voyage.
Oui. D'ailleurs, je l'ai conçu effectivement comme un film. Alors chaque scène,
chanson.
chaque morceau représente une phase de l'aventure que vit un astronaute quand il va passer 6 mois dans l'ISS.
Ouais.
Donc chaque morceau est une phase de ça. Donc c'est comme un film effectivement. Et j'ai fait valider les phases en question par des astronautes.
Oui, par une astronaute en particulier. Parlez-nous de votre rencontre.
Alors, non.
Ah.
Je suppose que vous parlez de Sophie Adnaud.
Oui, Sophie, qui est en ce moment dans l'espace.
Oui. Donc Sophie, je l'ai rencontrée en juillet l'année dernière, donc l'album était déjà presque terminé. Donc elle m'a pas beaucoup inspiré puisque l'album était déjà fait. Non, j'avais d'abord rencontré il y a longtemps Thomas Pesquet, Luca Parmitano qui est l'homologue italien de Thomas, Jean-François Clairvoy qui est un astronaute des années 90. Donc c'est surtout mon expérience personnelle déjà et des discussions avec eux qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup nourri pour faire ce projet. Ensuite, j'ai rencontré Sophie qui m'a fait un cadeau magnifique. Elle m'a invité à venir assister à son lancement. Donc j'étais là-bas à Cap Canaveral, j'ai assisté à ça. Et du coup, à cette occasion, j'ai rencontré plein d'astronautes d'un coup. Là, j'en connais plein maintenant.
Il y en a plein dans son téléphone.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, j'ai sympathisé notamment avec Claudie Aigneret et son mari Jean-Pierre,
ouais,
qui sont d'ailleurs adorables comme tous les astronautes que j'ai rencontrés. C'est des gens qui m'impressionnent beaucoup.
Ça, quand même, dans votre vie, vous en avez croisé. On parlait tout à l'heure de votre rencontre avec Jacques Mayol, un apnéiste incroyable. Là, des astronautes. Enfin, c'est des gens comme nous, mais ils sont pas comme nous. Je veux dire, il y a un côté.
Non, ils sont pas comme nous.
Alors, si on devait nous faire confiance pour faire tourner la station spatiale, autant vous dire, ce serait compliqué, quoi.
Mais justement, j'ai, comme vous venez de le dire, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dans différents domaines et beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ouais, de respect, etc., qui m'ont impressionné, qui étaient très accomplis dans leur domaine. Ce qui m'étonne le plus, ce qui me surprend le plus avec les astronautes, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est tous les gens qui travaillent dans le spatial, c'est-à-dire,
ouais,
c'est pas que les astronautes, c'est les gens de l'Agence spatiale européenne, ouais, les gens de la NASA,
les ingénieurs, les gens
du CNES, tout ça.
Ouais.
C'est tous. J'ai jamais rencontré des gens aussi accomplis dans autant de domaines. Parce que, vous voyez, les autres gens impressionnants quoi, que j'ai rencontrés, ils sont accomplis dans leur domaine,
oui,
éventuellement dans un ou deux domaines. Mais les astronautes, c'est à la fois des athlètes de haut niveau,
c'est vrai,
c'est des scientifiques de haut niveau, Et notamment, ils ont un don pour la communication. Ils sont extrêmement attentionnés, pas du tout méprisants, alors que, notamment quand je suis arrivé à Cap Canaveral, j'étais un peu, au départ, j'étais un peu intimidé, parce que j'arrive là-bas, j'étais le seul artiste, dans tous les gens qui étaient sur place, et vraiment, ce qui m'a sidéré, c'est que je me suis senti mais adopté et accueilli dans leur monde comme mais vraiment comme une adoption quoi. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti la moindre fraction de seconde de
supériorité de leur part.
Ouais.
C'est beau ça.
Et pour ça, je trouve qu'ils sont admirables. Et quand vous leur posez des questions techniques, par exemple, de vous expliquer comment marche l'orbite, vous expliquer l'orbite. Eh ben, ils vous expliquent ça et c'est super clair. Vous comprenez tout de suite. Donc, bref, c'est les gens les plus accomplis que j'ai rencontrés dans ma vie.
Alors, cet album, vous leur dédiez, hein, Space Project UMO, il est disponible. Allez l'écouter, le streamer, puisque maintenant, on peut faire ça de manière dématérialisée. Vraiment, vous avez passé un moment dingue. Et il y aura, j'imagine, des extraits aussi sur votre tournée, Eric.
Oh bah oui, j'ai envie. C'est mon dernier album. J'en suis très, très fier. Et du coup, évidemment, j'ai envie de jouer. Donc, il y en aura, je sais pas, un ou deux ou trois morceaux, je sais pas.
Alors, Space Project, UMO, Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, GoldenEye, James Bond, Le Cinquième Élément, Rollerball, Arthur et les Minimoys, Lucie, Anna et 3 points de suspension. Vous allez aimer cette série de concerts. Eric Serra live. Bon anniversaire, Eric. Merci. Hein, à votre carrière.
Ah,
c'est un concert anniversaire.
Ah oui, c'est vrai.
45. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
Oui, j'en ai entendu parler.
Et bonne tournée, en tout cas, et merci d'être venu nous voir.
Avec plaisir, merci à vous.
Les Essentiels de Décibel, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez Ici.
À toute heure, c'est nos âmes et nos cœurs, vendus pour pas très cher, un like, un commentaire. On se donne, on se montre, on balance tout de nous, et l'on dit qu'on est con, en appuyant sur pour. Toutes les occasions sont bonnes, sa détresse ou son chien, est-ce qu'on n'est plus personne? Si on ne poste rien, on voudrait devenir des héros, héros de notre temps. On ne fait pourtant que des photos de l'instant. Dis-moi, est-ce qu'on est vraiment beau en solo sur l'écran? Dis-moi surtout s'il nous faut ce grand braquage des sentiments. Ce grand braquage des sentiments. On cueille sur les réseaux les fruits de nos égos. On affiche son bonheur, on partage sa douleur. On évoque au passage ce parti en voyage, un immense déballage de slogans et d'images. Toutes les occasions sont bonnes, sa détresse ou son chien. Est-ce qu'on n'est plus personne si on ne poste rien? On voudrait devenir des héros, héros de notre temps. On ne fait pourtant que des photos de l'instant. Dis-moi, est-ce qu'on est vraiment beau en solo sur l'écran? Dis-moi surtout s'il nous faut ce grand braquage sentiments. Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'aller dans le jardin, laisser vibrer sa joie et taire son chagrin? On serait plus heureux à sauter dans un train, laisser vibrer sa voix, sauter sur le chemin. On voudrait devenir des héros, pas, surtout s'il nous faut ce grand braquage des sentiments.
Qu'est-ce que ça fait de nous des héros?
Ce grand braquage
des héros. Qu'est-ce que ça fait de nous des héros?
Des sentiments. Est-ce que ça fait